9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Fanny Herrero.
Bonjour.
Content de vous accueillir ici dans Culture Média. Vous êtes scénariste, showrunneuse, écrit pour des séries comme Fais pas ci, fais pas ça, Un village français. Et surtout, vous êtes la créatrice emblématique de la série 10%. Et vous avez créé la nouvelle série dont tout le monde parle. Ça s'appelle Drôle. C'est disponible sur Netflix depuis vendredi dernier. Justement, on dit showrunneuse, showrunner.
Bah déjà, on dit pas en français. Donc bon. On va dire ce qu'on
vous
veut.
Vous dites comment vous?
Moi, je dis showrunner. J'ai pas trop de problèmes avec ça.
Je pose la question, parce que sur le dossier de presse de la série, il y a écrit les deux.
Ouais.
En quoi consiste ce métier qu'on connaît encore mal en France ?
Le showrunner, en fait, c'est celui qui, à la base, est un scénariste. Donc, c'est celui qui porte l'idée, déjà, qui porte l'écriture d'une série et qui va accompagner ensuite la fabrication de la série jusqu'à sa livraison, jusqu'à la fin. Et qui est, en fait, le garant de la cohérence artistique de la série. Donc, ça veut dire qu'il va s'occuper à la fois du casting, du choix des décors, des costumes, du montage à la fin, qui est en lien avec les réalisateurs, avec les acteurs. C'est un peu le chef d'orchestre de la série, en fait.
Et on reçoit beaucoup de réalisateurs de films ici, peu de créateurs de séries. À Culture Média, on en reçoit. Vous êtes la première à avoir eu cette reconnaissance auprès des médias et du grand public. Vous êtes la première dont le nom français est connu.
Bah oui, écoutez, ça tombe sur moi, j'assume. Non mais je suis flattée, je suis touchée. Après, il faut rendre justice à tous mes collègues parce que vraiment, je suis pas du tout la seule. Donc très bien, je veux bien prendre le flambeau médiatique, mais il y en a plein, de Éric Rochant à Cook d'Anctran, Marine Francou, Benjamin Dupas, Cécile Ducrot, Marie Roussin, Olivier Dujol. Enfin, je veux dire, il y a énormément de gens qui maintenant font ça. Mais ouais. Voilà, moi je veux bien parler en leur nom.
Je note parce que ça nous fera des invités pour Culture Média. Quoique Éric Rochant est déjà venu justement parler du Bureau des Légendes. Drôle, c'est donc le nom de votre nouvelle série. Drôle, c'est aussi le nom d'un comédie club où se produisent vos personnages principaux. Pourquoi vous intéresser à ce milieu du stand-up? Pourquoi en faire le sujet d'une série? C'était une tendance l'an dernier à Sériemania. Il y avait Jeune et Gaulerie. Mmh. Pourquoi ça vous a intéressé, le stand-up? Comment c'est parti?
En fait, c'est venu il y a quelques années, au moment où j'ai arrêté 10%, à peu près il y a 3 ans. Je me suis retrouvée dans un petit comédie club un peu par hasard. J'étais jamais allée dans un comédie club. Je connaissais un peu le stand-up, mais quelques personnes emblématiques, Jean-Blanche Gardin, que j'adore. Mais j'étais jamais allée voir un plateau, en fait. Donc, vous voyez le principe, une heure, et pendant une heure, vous voyez entre 4 et 6 humoristes qui se succèdent.
Vous êtes combien dans la salle? Parce que la légende, mais on dit parfois on est 3 ou 4. Et dans Drôle, il y a une jeune femme qui se lance dans le stand-up, et on lui dit il faut que tu viennes avec 3 personnes pour qu'il y ait un peu de monde dans la salle.
Et ça, c'est pour les débutants. Non, là, c'était quand même des gens confirmés.
Ouais.
C'était dans un comédie club qui s'appelle Le Paname, qui est dans le 11e. C'est un des plus connus à Paris. Il y en a 4 ou 5 comme ça maintenant, des comédie clubs qui marchent bien à Paris. Et donc, je me retrouve dans cette petite cave, voilà, sur des petits bancs qui font un peu mal aux fesses. Et se succèdent devant moi 6 jeunes gens qui ont tous entre 20 et 35 ans, qui racontent des histoires insensées de leur propre vie, qui font du commentaire de la vie de notre société. En fait, tout ça en faisant des blagues. Et j'ai eu une espèce de coup de foudre pour ces gens, en fait. Ça m'a vraiment intéressée, genre comment ils travaillent, d'où ça vient, ça, ces vannes de leur vie. Et donc, en sortant du Comedy Club, j'avais envie de tous les rencontrer. En plus, ils étaient tous tellement différents.
Et pourquoi vous étiez dans ce Comedy Club? Parce qu'il y a aussi une autre histoire dans l'histoire.
Je vois ce que vous voulez me faire dire. Non, bah, il se trouve que j'ai rencontré par hasard Gad Elmaleh, parce qu'on a le même agent américain, et que voilà. C'est lui qui m'a dit « mais tu devrais un peu t'intéresser au stand-up parisien. En ce moment, il se passe vraiment un truc. » Et il avait raison. C'est-à-dire là, depuis quelques années, c'est un peu un petit phénomène.
Bien sûr.
Et ça intéresse plein de jeunes gens. Et c'est une scène qui est très vigoureuse, en fait. Donc voilà, c'est lui qui m'a dit « va au Paname, tu vas voir, tu vas pas être déçu ».
Voilà, et à l'occasion, j'ai appris que vous aviez un agent américain. Ça donne juste une idée du statut de Fanny Herrero. On suit 4 personnages. Il y a Blink, qui est joué par Jean Sienne. On va parler du casting après, parce qu'ils sont absolument incroyables et on ne les connaissait pas à une exception. Je vais la citer, c'est Aïssatou Mariama Gueye. Il y a aussi Apolline, jouée par Elsa Gedge, qui est extraordinaire en fille de bourgeois. La mère voudrait qu'elle soit une bourgeoise comme elle-même, mais elle-même est fascinée par le milieu du stand-up. Et puis il y a Nézir, qui est joué par Younes Boussif, jeune de banlieue talentueux, mais pour l'instant il galère un peu en étant livreur à vélo. Ça, c'est le lot des gens qui font du stand-up. Et alors, Aïssatou, elle va avoir sa carrière qui décolle, elle est très très peu connue, mais elle peut arriver à faire, elle va faire 1 million de vues grâce à un sketch très intime. On l'écoute.
Ah, moi franchement, je voulais juste vous parler d'une petite conversation que j'ai eue avec mon copain l'autre soir. Bah, on reparlait un petit peu des meilleurs moments de notre relation et on n'a pas su se dire hein, si le moment le plus fort, c'est le jour où on s'est dit qu'on s'aimait ou le jour où je lui ai mis un doigt dans le cul pour la première fois. Ah non, mais je vous le dis, ça l'a rendu tellement heureux. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. Avec mon mec, on est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. Pourtant, c'est pas du tout le même budget. Après, tu me diras, c'est quand même plus facile à mettre sur Instagram. Hein ?
Je l'ai vu, je ris encore. Le sketch va buzzer, fait parler d'elle. Mais ce qui est formidable avec ce sketch, et c'est là où on voit votre talent de showrunner, c'est que ce sketch s'entremêle avec la vie privée du personnage. Car son mec, parce qu'elle a un mec, il est prof, il passe une thèse. Et tout d'un coup, il ne veut plus être vu comme celui qui aime avoir un doigt dans le cul et qu'on lui touche la prostate.
C'est ça. Bah oui, l'idée, c'était de raconter. Parce que les stand-upers, en fait, ils font... leur beurre avec leur vie intime, en fait, avec voilà, leur enfance, leur famille, leur sexualité, leurs convictions. Et à un moment, bah, ça concerne d'autres gens, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils vont parler de leurs parents, ils vont parler de leurs enfants, ils vont parler de leur mec ou de leur copine. Et donc forcément, ça crée des situations pour nous, scénaristes, qui sont du pain béni, parce que ça va créer des tensions, des conflits. Et en même temps, bah, voilà, son copain, il ne peut que se réjouir du succès d'Aïssa. Et en même temps, il est complètement démoralisé parce que ça parle de lui, quoi, et que c'est une catastrophe pour son image.
Ouais, exactement. Alors, il y a aussi le personnage d'Apolline, jeune femme issue d'un milieu bourgeois qui rêve de faire du stand-up. C'est Elsa Gage, absolument formidable. Elle vient très souvent au Comedy Club, elle prend des notes. Et là, on la soupçonne de voler des blagues. Et on pense forcément à l'affaire Copy Comique il y a 4 ans, vous vous souvenez ? C'était un compte Twitter anonyme qui montrait les similitudes entre certains sketchs, parfois de grands auteurs, de grands stand-uppers américains et parfois même des petits français. Et ça aussi, ça a compté pour vous dans l'histoire de...
Oui, ça a affolé le milieu il y a quelques années. Alors nous, on n'en fait pas une vraie histoire de ça, mais on aime bien distiller des petites références comme ça. Effectivement, quand Apolline vient prendre des notes juste par... pure curiosité, elle sait juste qu'elle est fascinée. On la prend au départ pour une voleuse de vannes et du coup, ben, ça risque de la mettre en difficulté par rapport aux autres stand-upers.
Et alors, il y a une histoire dans l'histoire, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est qu'en plus, la première personne qui avait été visée par ce scandale, c'est votre copain. Enfin, vous avez le même agent américain, Gad Elmaleh.
Ouais,
donc,
vrai.
Vous étiez un peu sur des œufs pour traiter
oui,
cet angle.
Oui, après, on ne s'est pas jeté là-dedans, on ne s'est pas roulé dans la boue avec toute cette histoire. Et puis, je pense que même les stand-upers eux-mêmes n'ont pas forcément envie qu'on s'étale là-dessus et qu'on en fasse toute une histoire. Ça les a un moment agités, voilà, ça fait, je pense, du mal à Gad Elmaleh, mais on s'est pas arrêté trop là-dessus.
Et il y a beaucoup d'autres, et pour suivre un petit peu, il y a un avant et un après. Maintenant, c'est terminé. Le vol de vannes, j'ai l'impression que c'est terminé, la hantise totale.
Ben, c'est la hantise totale, mais d'ailleurs, bon, vous verrez au fil de la saison, et je ne spoil pas, mais il y a un moment où en fait, on réutilise ce principe-là, c'est-à-dire qu'un stand-upper qui veut se venger de quelqu'un, peut assez facilement l'accuser de plagiat ou se débrouiller pour qu'il soit accusé de plagiat. Donc ça, c'est une arme fatale chez les stand-upers, le plagiat.
Alors ce qui est très difficile quand on fait une série sur l'humour, c'est qu'il faut montrer des bons et des mauvais. Mais comment fait-on pour écrire des mauvaises blagues ? Réponse avec Fanny Herrero. On marque une courte pause. Culture Média revient.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Fanny Herrero, c'est la showrunner de 10%. Elle a pour ça un agent américain. Et voici Drôle qui débarque sur Netflix. C'est la saison 1. C'est hilarant. J'ai pas tout vu. J'ai pas vu toute la saison. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Et c'est vraiment hilarant. Ça se passe dans le milieu du stand-up. Vous travaillez avec une équipe d'auteurs, évidemment, pour l'intrigue. Mais vous avez, ai-je appris, également une équipe d'auteurs de stand-up pour les vannes. On voit dans la série des jeunes apprentis stand-uppers qui testent leur vannes sur le public. Comment on écrit des blagues ratées ? Parce qu'il y en a beaucoup de ratées.
Bah alors déjà, moi, je ne voulais surtout pas endosser cette responsabilité. Donc effectivement, comme vous le dites, j'ai confié ça à 4 stand-uppers que j'adore, que j'admire, qui sont Thomas Wiesel, Fanny Ruet, Shirley Soignon et Jason Brokers. Très différents, les 4. Et donc, eux, ils avaient la lourde charge d'écrire parfois du bon stand-up et du moins bon stand-up. Et donc, pour eux, c'était quand même un sacré truc parce que d'habitude, ils écrivent pour eux-mêmes. Là, il fallait qu'ils écrivent, même pas pour des copains stand-up, pour des personnages, donc de fiction. Il fallait leur inventer une intériorité, leur inventer un style et ensuite travailler avec les comédiens. Donc, c'était vraiment génial parce qu'on a aussi coaché nos acteurs qui ne sont pas des stand-uppers pour qu'ils soient crédibles
sur
scène.
Ça allait être ma question. Pourquoi ce choix ? Seinfeld est à la fois acteur et stand-upper. Pourquoi avoir choisi volontairement des comédiens qui ne soient pas stand-uppers ?
Alors déjà, parce qu'on voulait des bons comédiens. C'était vraiment la base, c'est d'avoir des bons comédiens. Parce que le stand-up dans la série, c'est important, mais ça ne représente non plus pas la majorité des séquences. Donc il faut quand même qu'ils soient bons dans le jeu de la vie, quoi, et qu'ils puissent nous transmettre des émotions. Et puis on voulait aussi des inconnus, parce qu'on voulait, en fait 4 nouvelles têtes, 4 têtes fraîches qu'on n'a jamais vues. On voulait qu'ils soient immédiatement les personnages, qu'il y ait une authenticité, et que quand on les voit, on se dit « Ah, mais ça pourrait être personne d'autre, c'est Nézir, c'est Aïssa, c'est Apolline, c'est Bling ». Moi, j'adore ça comme spectatrice. J'adore découvrir des nouvelles personnes. Et je trouve que les séries, ça s'y prête hyper bien.
Pareil, je fais un compliment. Quand on voit le premier épisode, tous les personnages sont traités à égalité. Donc, on ne sait même pas lesquels quatre vont ressortir ensuite. Il y a une émission de télé. Évidemment, ici, on est une émission média. On ne peut pas ne pas vous poser la question. On voit un animateur un petit peu égotique qui présente un talk show quotidien. Il a des auteurs pour faire des blagues. C'était qui votre inspiration?
Mais vous, Philippe, non?
Bien sûr. Alors, moi, j'écris mes blagues. On m'a même reproché de reprendre mes propres blagues. Donc, je peux vous dire, je suis le seul gars qui se cambriole chez lui. Mais non, en fait, l'émission s'appelle Ce soir, on parle. Ouais. En gros, c'est un mix entre Tout le monde en parle d'Ardisson et On n'est pas couché de chez Ruquier.
Oui, un peu ça. Matinée d'Hanouna. Bah, en fait, oui, des figures comme ça, un peu imposantes d'animateurs qui vont aller chercher la polémique, le buzz, déstabiliser leurs invités. Et c'est notre belle et incroyable Aïssatou qui ont fait un peu les frais en venant faire la promo de son spectacle. Et non, c'est vrai qu'on n'y est pas à main morte avec ce personnage et le comédien qui l'incarne, qui s'appelle Stéphane Debac, s'en est vraiment donné à cœur joie pour camper un gars fascinant de médiocrité finalement.
Ouais. Mais ça m'a ravi, j'ai vu ça tellement de fois, ouais, des gens qui amènent des auteurs à l'animateur et puis il dit ça c'est drôle, ça c'est pas drôle.
Ouais.
Tellement dingue, on croirait du reportage. Alors, il y a le stand-up, mais il y a aussi le background, si j'ose dire, quatre personnages humains touchants. Voici pourquoi ce ne sont pas des stand-uppers, mais des vrais comédiens. Ils vivent dans de vrais appartements et pas comme ceux du cinéma français où ils sont étudiants en sociaux et ils ont 58 mètres carrés qui donnent sur la tour Eiffel. Les intrigues sont ancrées dans le réel. Exemple, je vais y arriver, le jeune Nézir, il vit en banlieue avec son papa. Papa infirme, mais pas assez pour avoir le statut d'handicapé. Ils sont dans la cuisine, tous les deux, Nézir et son père, et ils font les comptes.
T'as le RSA, d'accord?
Oui.
T'as droit au RSA, 564 euros.
Hein?
564.
Ouais, c'est pas mal, hein?
À ça, il faut enlever les 67 euros d'aide au logement.
Pourquoi?
Parce que tu peux pas cumuler les deux.
Ah bon?
Donc, 497 euros, ça fait plus, moi, avec YoumiClick, 600 euros.
Et YoumiClick? Quand tu travailles quand il pleut, il te donne une prime. Inch'Allah, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, il va pleuvoir bientôt. Inch'Allah.
Oui. Ça fait 1097 euros. Ensuite, il y a les chapeaux du stand-up. Ça fait 300 euros max par mois. Ok. Ça fait 1397 euros par mois pour nous deux, pour vivre.
Attends. Madame Chalkraoui, elle m'a proposé de faire des sweatshirts Batman. Ça marche bien, ça, Batman, non?
YoumiClick, c'est une entreprise de livraison dans laquelle il travaille. Vous avez enquêté, vous êtes allé voir les gens du stand-up, parce qu'il y en a plein qui ont du mal à joindre les deux bouts.
Bah oui, c'est un métier de galérien, puis surtout, c'est des métiers où, avant que ça devienne un métier, c'est quand même des années d'entre-deux, quoi, où on est encore dans son travail, dans son petit job, et qu'on commence à faire du stand-up. Il faut très longtemps pour devenir stand-upper, ils nous l'ont tous dit, c'est des années de pratique. Donc avant d'en vivre, avant d'être à l'aise, avant d'être un peu connu, avant d'avoir sa place sur les plateaux, c'est énormément de petits jobs, de petites galères. Nous, c'est ce qu'on essaye de raconter. En même temps, moi, je trouve ça hyper beau, hyper touchant, parce que justement, pour les enquiller, c'est 4, 5, 6 années de galère. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le feu, quoi. Il faut vraiment avoir la vocation. Et c'est quand même ça qu'on montre dans cette série.
Le feu, vous l'avez. Votre ancienne série 10% a été diffusée sur France 2. Le lendemain, on avait les bonnes audiences à 9h. Est-ce que vous avez des retours de Netflix?
Non, je sais juste qu'ils sont super contents et qu'on a vraiment plein de retours et de la presse. Et voilà, moi, je reçois tous les jours des messages. C'est quand même incroyable, Netflix, pour ça. C'est du monde entier, en fait. C'est-à-dire que j'ai des messages en portugais, des messages en italien, des messages d'Afrique du Sud, d'Asie. Enfin, ça, c'est vraiment dingue de sentir l'ampleur du truc. Mais après, nous, on n'a pour l'instant aucun retour sur les chiffres.
Je n'ai pas vu le dernier épisode, mais dans mon équipe, ils ont tous fait du binge-watching, ils ont tous vu. Ils ont remarqué que la fin était ouverte. Est-ce qu'il y aura une saison 2 de ce que vous avez senti et de ce que vous a dit Netflix?
Nous, c'est le principe quand même. Quand on lance une série comme ça, l'idée, c'est que ces personnages, si on a bien fait notre travail, les spectateurs vont les aimer, vont avoir envie de les retrouver. Et nous aussi, les auteurs, on a envie de continuer à les faire vivre. Donc, on travaille dessus. On est en train d'écrire la saison 2. On va voir si tout se passe bien. J'espère qu'on pourra la tourner bientôt.
Voilà, vous viendrez pour la saison 3. Alors, je vous invite déjà tout de suite. Merci beaucoup,
merci.
Fanny Herrero. Ça s'appelle Drôle, c'est la saison 1. C'est disponible sur Netflix. Pourquoi seulement 8 épisodes, 6 épisodes? D'habitude, il y en a plus.
Oui.
Vous avez fait une drôle de tête. J'ai posé une mauvaise question, donc
non,
une bonne.
Non, mais c'est bien. Merci, Philippe. C'est juste que C'est tellement dur en vrai. Enfin, je ne vais pas me plaindre, il y a des métiers plus difficiles, mais c'est vraiment difficile, je vous promets, de d'écrire 4, 5, 6 heures de fiction. Et donc, voilà, moi, je pense que pour faire bien, il faut qu'il y en ait un peu moins, mais qu'il soit vraiment très travaillé, qu'on soit précis et délicat.
Je confirme, rien n'est plus difficile que d'être drôle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fanny Herrero.